c'est le journal de Jacqueline Fardel. Bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Le grand rush de l'Ascension, week-end qui lance la saison touristique sous les meilleurs auspices, visiblement, cette année. Le carnage aurait-il pu être évité aux États-Unis? Le cauchemar, encore une fois, d'une fusillade dans une école et l'impasse, la division, toujours sur la question du port d'armes. Dans ce journal également, les blessures invisibles des victimes du 13 novembre à Paris et un air de déjà-vu à Bordeaux, des immeubles évacués en urgence, comme il y a un an, dans le quartier historique, un mur porteur au bord de la rupture. Un retour en pleine lumière à Roland-Garros. La Française Léolia Jean-Jean a remporté son premier match en Grand Chelem après 10 ans d'absence et une mauvaise blessure.
Et au micro d'Alexandra Ben Saïd, dans 20 minutes, c'est aujourd'hui l'avocate Rachel Flore Pardon, fondatrice de Stop Ficha, association féministe contre le cybersexisme.
France Inter.
Comme un air de plein été sur les routes du pont de l'Ascension.
Après les températures dignes d'un mois d'août, les bouchons dignes des grandes vacances. Il faut prendre son mal en patience ce matin pour les automobilistes. Bison futé, voie rouge sur les routes. Ce sera même noir dimanche pour les retours. De nombreux trains affichent complet également. La SNCF attend plus d'1,5 million de voyageurs d'ici la fin de la semaine. Un quart de plus que l'an dernier pour ce long week-end férié. Les Français ont visiblement choisi de mettre les voiles pour ce week-end prolongé, Agnès Soubiran.
Et c'est peut-être la récente vague de chaleur qui a décidé les urbains à partir. Près de la moitié des réservations se sont faites au cours des 15 derniers jours, constate Corinne Joly, présidente de PAP qui propose des locations entre particuliers, avec des réservations cette année en hausse de 17% par rapport à l'an dernier.
Il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup trop chaud ces dernières semaines et qui du coup ont essayé de partir dans des destinations plus fraîches, notamment dans le nord de la France avec une percée de la baie de Somme et du Pas-de-Calais. Et là, clairement, c'est dans l'espoir d'y trouver une météo plus fraîche.
Le littoral qui reste la destination préférée pour ce week-end prolongé, la Normandie et notamment le Calvados, mais aussi la Bretagne. Et puis la campagne grignote des parts de marché.
La progression de la campagne, on l'observe depuis le début de la crise sanitaire à quasiment toutes les vacances. Pour nous, elle est corrélée au fait qu'il y a une volonté de trouver des endroits qui sont plus isolés, plus authentiques. Et puis aussi une question de budget. La campagne permet de trouver des biens plus grands, dans des cadres qui ont beaucoup de charme et qui sont à des budgets plus accessibles que le bord de mer.
Enfin, si les villes françaises attirent moins durant ces longs week-ends, les voisines européennes, Amsterdam, Barcelone, Rome et Palma de Majorque font le plein.
Et sur le bord des routes de ce long week-end, les contrôles des forces de l'ordre sont renforcés. Contrôle de l'alcool, du téléphone au volant, contrôle de la vitesse aussi. De ce côté-là, on va peut-être vers un changement pour les petits excès de vitesse. Peut-être bientôt fini les points perdus quand on roule à 114 au lieu de 110. Le gouvernement réfléchit à assouplir les sanctions pour les micros excès de vitesse, ceux inférieurs donc à 5 km/h au-dessous de la vitesse autorisée. Le conducteur ne perdrait plus de points, mais paierait quand même, ceci dit, l'amende. Réflexion en cours, mais pas de calendrier fixé. Pont de l'Ascension ou pas, la première ministre Elisabeth Borne réunit son gouvernement demain. Elisabeth Borne qui va distribuer les feuilles de route à chacun, selon les priorités fixées par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui est, lui, au fort de Brégançon pour ce week-end. Il s'entretient ce matin avec son homologue turc Recep Erdogan, opposé à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
Au procès des attentats du 13 novembre, la suite des plaidoirie pour les avocats des parties civiles.
170 avocats à plaider. Ils ont la parole depuis le début de la semaine jusqu'au 7 juin. 170 avocats pour porter la parole des victimes, évoquer leurs souffrances, avec les blessures physiques, bien sûr, mais aussi le poids des blessures psychiques qui ne font pas moins souffrir Charlotte Piret.
Il y a bien sûr les blessures causées par les balles de Kalachnikov qui déchiquettent les muscles, éclatent les os et dont les victimes ont vu leur corps se transformer en leur pire ennemi, plaide Maître Zégout, ont dû lutter contre le risque infectieux, faire face à une longue rééducation, accepter leurs séquelles, leur handicap, leurs cicatrices. Il y a les blessures physiques, elles aussi, mais qui ne se voient pas, explique Maître Béanzin. Blessures minimisées, poursuit l'avocate, car elles ne sont pas graves. Et j'aurais voulu vous citer un auteur ou du latin pour les qualifier, plaide-t-elle. Finalement, ce sera ces blessures qui pourrissent la vie. Enfin, il y a les blessures psychiques, celles du stress post-traumatique, partout, tout le temps, au travail, en famille, entre amis, au supermarché, chez le médecin, au cinéma, plaide Maître Dean Parast. La souffrance du passé qui ne cesse d'être présente. Mais Qu'allez-vous faire de ces blessures ? Interpelle alors Maître Bibal. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu, ressenti ? Ces victimes ne sont pas venues témoigner simplement pour vous faire pleurer. Elles ont des amis pour cela. Non, plaide l'avocat, ces souffrances sont un élément du procès pénal. Elles devront, selon lui, aussi être un élément des motivations de la cour d'assises dans le verdict qu'elle s'apprête à rendre.
Charlotte Piret, la cour d'assises spéciale de Paris. La polémique autour du burkini dans les piscines de Grenoble. La ville fait appel devant le Conseil d'État du jugement du tribunal administratif. Il a suspendu hier une disposition permettant le port du burkini dans les piscines municipales.
L'histoire qui se répète aux États-Unis.
Et la question de la limitation des armes à feu qui se pose à nouveau 24 heures après la fusillade d'Uvalde, nouvelle ville martyr dans le sud du Texas. 10 jours seulement après la tuerie raciste de Buffalo, un homme de 18 ans a ouvert le feu, tuant 21 personnes dans une école primaire, 19 enfants. Le tireur avait acheté quelques jours auparavant 2 fusils d'assaut, 375 cartouches. Il avait aussi annoncé sur Facebook qu'il allait s'en prendre à une école. Des détails donnés lors d'une conférence de presse du gouverneur du Texas hier soir. Un drame qui ne suffira pas à régler le débat sur la détention d'armes à feu dans le pays. La preuve avec cet incident au cours de cette conférence de presse, Jean-Sébastien Soldani, l'élu républicain a été interrompu par un démocrate.
L'auditorium écoute attentivement le gouverneur du Texas livrer les derniers éléments de l'enquête lorsqu'une silhouette élancée, bien connue des locaux, s'avance vers eux. Beto O'Rourke, candidat à la primaire démocrate en 2020. Il leur lance alors « C'est de votre faute tant que vous ne choisissez pas d'agir ». Référence explicite à la régulation des ventes d'armes. Ce sont alors des noms d'oiseaux qui fusent. « Vous êtes un menteur », hurle un des hommes du gouverneur en le pointant du doigt. « Vous êtes là pour créer un problème politique », argument repris par le gouverneur Abbott.
Il y a des familles qui pleurent pendant que nous parlons. Ces familles ont le cœur brisé. Il n'y a pas de mots pour qualifier quelqu'un qui vient ici pour nous interpeller sans rien faire pour réconforter ces cœurs brisés.
Quelques minutes avant, le gouverneur du Texas avait insisté. Pas de signe avant-coureur, pas de signe de maladie mentale chez le tireur. Seuls ces 3 messages postés sur Facebook froidement, 30 minutes avant les faits.
Le premier message disait « Je vais tuer ma grand-mère ». Le deuxième message « J'ai tué ma grand-mère ». Le troisième message « Peut-être moins de 15 minutes avant d'arriver » disait ceci « Je vais faire feu dans une école ».
Le gouverneur écarte le débat sur les armes. Il préfère répondre à un défi, dit-il, celui de la santé mentale de ceux qui tuent.
Dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe cherche coûte que coûte à s'emparer de la ville de Severodonetsk, quasiment assiégée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky alerte dans cette zone l'ennemi est nettement supérieur en termes d'équipement, en nombre de soldats. Il réclame davantage d'armes lourdes. Ce drame au Sénégal, 11 bébés morts dans un incendie dans un hôpital à Tivaouane, dans l'ouest du pays. Début avril, c'est une femme enceinte qui était décédée dans un autre hôpital. Drame qui avait déjà suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux face aux carences du système de santé publique dans le pays. La variole du singe, plus de 200 cas confirmés dans le monde en dehors des pays où la maladie est endémique. 19 pays où la maladie est inhabituelle ont repéré au moins un cas sans aucun décès. Le nombre de cas les plus importants se trouve au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal, indique le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. À Bordeaux, des familles et des commerçants ne passeront pas ce week-end férié de façon paisible. Ils ont dû quitter leurs appartements de façon urgente hier. Arrêt de péril imminent pris par la ville. 6 immeubles du centre historique ont dû être évacués en raison d'un risque d'effondrement. Place Gambetta et rue Porte Dijon, l'une des rues commerçantes les plus fréquentées de la ville. Il y a quasiment un an déjà, une évacuation du même genre avait été organisée en pleine nuit, également dans le quartier historique. Cette fois, c'est un ouvrier qui a donné l'alerte, Solène de Larquier. Il a repéré une fissure impressionnante.
La fissure est difficile à rater. Elle ronge la façade du 12 bis sur 3 mètres de long.
C'est assez flippant quand même, j'avoue, puisque la faille file jusqu'au toit.
Bénédicte est gérante d'une joaillerie au 12. Comme elle, 8 entreprises et 7 locataires ont eu 24 heures pour évacuer.
La décision responsable de la mairie a été extrêmement brutale. On a loué un camion et on essaye d'aller mettre tout ça dans un box en attendant des nouvelles de la situation, de savoir si on pourra réintégrer les lieux d'ici un mois, 2 mois, ou si voilà, on déménage carrément.
Là-dessus, la mairie de Bordeaux l'avoue, impossible de donner une durée. Un an après l'effondrement de 2 immeubles rue de la Rousselle, dans un autre quartier du centre, centre historique, le chantier de sécurisation est toujours en cours. Ce nouveau risque d'effondrement peut inquiéter, mais ça ne veut pas dire que la situation à Bordeaux empire, selon Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire en charge du logement.
Maintenant, on cherche ces situations. Donc plus on les cherche, plus on les trouve. Ça ne veut pas dire qu'il y en a davantage qu'avant. Et je rappelle aussi qu'il y a l'étude du diagnostic bâtimentaire du centre historique qui est en cours et qui viendra aussi affiner ce périmètre et les raisons des fragilisations. Le point commun, c'est un défaut d'entretien. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires qui font que la situation peut s'accélérer. C'est ça que nous dira le diagnostic.
Ici aussi, le début de l'enquête montre que le propriétaire du 12 bis place Gambetta n'avait pas fait les travaux nécessaires.
Solène de l'Arquier de France Bleu Gironde.
À Roland-Garros, c'est la belle histoire du début du tournoi, celle de Léolia Jean-Jean, 26 ans.
Ancienne grande espoir du tennis française, la Montpelliéraine avait disparu des radars pour poursuivre ses études aux États-Unis. Aujourd'hui, 227e mondiale, elle vient de remporter sa première grande victoire en Grand Chelem. Et alors que le monde du tennis ne pensait plus l'admirer un jour sur un court professionnel, elle joue aujourd'hui le deuxième tour face à la Tchèque Karolina Pliskova, 8e mondiale. Léolia Jean-Jean revient de loin, de très loin, Emma Sarango.
Quand elle s'installe face au micro après sa victoire lundi, Léolia Jean-Jean sourit à peine, paraît crispée.
Je suis novice des interviews, tout ça, limite je suis stressée. Donc pour ça, je reste un peu concentrée, je pense, mais je suis très contente.
Contente, c'est un euphémisme. Enfant, Léolia est un grand espoir du tennis français, s'imposant face aux stars d'aujourd'hui, Bouchard, Svitolina. Mais à 14 ans, elle se blesse grièvement, le genou, et le niveau ne revient pas.
Quand j'ai repris, c'était assez compliqué, donc mes parents ils m'ont dit que c'est sûrement mieux que je parte faire des études.
À 18 ans donc, cap pour la Floride, 6 ans pour être diplômée en finance, puis en septembre 2020, elle se lance un défi fou, revenir en France, revenir sur les cours.
Le plus dur, ça a été de reprendre la partie physique. J'avais quand même pris beaucoup de poids aux États-Unis, puis je m'entraînais pas beaucoup.
Pendant 15 mois, Léolia bricole, 2 mois de petits boulots, 1 semaine de tournoi. Elle retrouve son tennis plus vite que prévu, décroche son invitation par la petite porte à Roland-Garros. Et voilà qu'elle remporte son premier tour. Alors aujourd'hui, Léolia rêve grand. Très grand.
La boucle, elle sera bouclée quand j'aurai fait les 4 grands chelems et que j'aurai atteint vraiment les objectifs que j'ai toujours eu quand j'étais jeune.
Quelle que soit l'issue de son match, Léolia a déjà tout gagné. Elle qui vivait encore hier avec le RSA partira d'ici avec au moins 86 000 euros en poche, de quoi financer toute une saison.
Et 4 autres Français en lice aujourd'hui sur les cours de Roland-Garros, Caroline Garcia, Alizé Cornet, Hugo Gaston et Gilles Simon, seule Française rescapée de la journée d'hier, Diane Paris. Et en foot, qui gagnera sa place en Ligue 1 ce soir entre Auxerre et Saint-Etienne, premier match de barrage Ligue 1, Ligue 2. La GIA est troisième de Ligue 2 et espère retrouver la Ligue 1. Saint-Etienne espère éviter la Ligue 2. Match aller au stade de l'Abbé des Champs. Match retour dimanche dans le Chaudron. Match à guichet fermé.
Merci à vous Jacqueline Fardel. L'édito politique est à suivre.